Le journal avec MCM, présenté par Antoine Samoyo.
Bonjour Antoine, et on commence par les titres que vous allez développer aujourd'hui.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. La télévision a 50 ans aujourd'hui. Le 5 octobre 1965, Télé-Polynésie inaugurait ses locaux de la rue du Mont-d'Urville à Papeete. Devenue RFO, puis aujourd'hui Polynésie Première, la chaîne est désormais installée à Pamatei. Vous entendrez le récit du premier présentateur du journal télévisé dans cette édition. Un procès à haut risque pour Gaston Tongsang, l'ancien président et aujourd'hui représentant ATP, comparé dans 2 semaines au tribunal correctionnel pour détournement de fonds publics. L'affaire remonte à 2008, mais ses conséquences pourraient être lourdes pour le maire de Bora Bora. Enfin, nous recevrons ce midi les étudiants de l'école de commerce de Tahiti. Ils nous parleront de l'événement qu'ils organisent demain soir au Banana Grill pour supporter le projet Make Sense du jeune Tahitien Christian Vanizette. Un projet qui concourt, je vous le rappelle, pour le Google Impact Challenge. À tout de suite.
Et on démarre avec les 50 ans de la télévision en Polynésie.
Le 5 octobre 1965, il y a tout juste 50 ans, Télé Tahiti était inaugurée dans les locaux de l'ERTF, situé rue du Mont-d'Urville à Papeete. Alors que la radio résonnait déjà dans les oreilles des Polynésiens depuis 1958, la télévision n'a fait son apparition qu'en 1965. À l'époque, elle ne diffusait que 3 heures par jour des émissions en noir et blanc qui n'étaient reçues que de la pointe Vénus à Faa et sur une partie de Morea. La toute première émission diffusée en Polynésie était un journal télévisé qui devait faire apparaître les images du voyage du général de Gaulle dans le Pacifique. Mais en raison d'un problème technique, l'émission a viré au fiasco. Interrogé quelques années plus tard par l'un des journalistes de RFO, le présentateur de l'époque raconte ce grand moment de solitude écoutée.
On a donc commencé ce journal télévisé, et puis au moment où j'ai lancé les premières images, rien n'est venu. Aujourd'hui, quand il y a 3 secondes de blanc à l'antenne, le présentateur est tout gêné. En ce qui me concerne, ça durait à peu près 3 quarts d'heure. Les images avaient été montées à l'envers, et on n'arrivait pas à les monter. Et c'est Simon Chiche qui a sauvé le coup, il n'était pas lui monteur non plus. Mais quand il a vu que Bernard, qui était un excellent caméraman, qui est toujours un excellent caméraman, n'avait pas réussi à monter ses images comme il convenait, il s'est empressé derrière la table de montage, et il a réussi à remettre les images à l'endroit. Il a pris 3 quarts d'heure pour cela, et il a eu d'ailleurs à ce moment-là un fou rire absolument inextinguible qui me frappait de l'autre côté de la glace, parce que dans le studio, en même temps que moi, il y avait le directeur général adjoint de l'ORTF de l'époque, André Astou, et le directeur de l'Outre-mer, Bernard Goulet. Et je dois dire que quand ces braves gens sont près de vous, que c'est le premier journal avec l'émotion que ça peut comporter, je veux dire que c'est pas très facile de les avoir dans le studio. J'aurais préféré qu'ils soient en régie. Et alors ils s'énervaient naturellement à chaque instant, et je les sentais bouger, ils étaient à ma droite, et moi qui étais vraiment à court d'imagination, on recevait pas 10 000 mots d'AFP. À ce moment-là, on recevait 400 ou 500 mots par jour, donc j'avais très peu d'informations à donner. J'étais en train de décrire le studio nouveau qui venait d'être donc construit. Je décrivais la régie, je décrivais la barbe de Bernard Henrion qui se trouvait derrière en régie et qui, lui, parce qu'il était aussi ému que tout le monde, prenait les tranquillisants. Bref, ça a été un spectacle assez étonnant, et ça, je dois dire que je ne l'ai pas oublié.
Et à l'époque du lancement de la chaîne, seule une 20aine de personnes travaillaient à la télévision. Au fil du temps, les antennes se sont multipliées pour élargir le réseau de diffusion. Mais ce n'est que 10 ans plus tard, en 1975, que les images sont arrivées aux Îles du Vent par voie aérienne. La couleur fera son apparition seulement 3 ans plus tard, en 1978. La société RFO verra le jour en 1982. Elle sera contrainte de quitter les locaux de Dumont-d'Urville pour la station de Pamatei en 1997. 3 ans avant la diversification de l'offre audiovisuelle en Polynésie avec la création de TNTV.
Dans l'actualité politico-judiciaire, Gaston Tongsang comparé dans 2 semaines au tribunal.
Effectivement, le 20 octobre prochain, l'ancien président du pays et aujourd'hui représentant à Tiapolinetia et maire de Bora Bora comparaîtra pour détournement de fonds publics aux côtés de 2 de ses anciens ministres, Fernand Romataroa et Clarence Vernodon. Les 3 hommes sont accusés d'avoir autorisé l'embauche d'une 20aine d'emplois cabinets de complaisance pour garantir la majorité à Gaston Tongsang en 2008. L'affaire replongera ses protagonistes dans l'instabilité politique chronique de ces dernières années. À l'époque, le président Tongsang s'était risqué à un calcul politique dangereux pour garantir une majorité qui ne tenait qu'à une seule voix et couper court aux manœuvres de Gaston Flosse qui tentait de le renverser. Il avait sacrifié le ministère de l'Agriculture de Hamotini Lagarde pour l'offrir à l'élu des Australes Fernand Romataroa. Mais pour contenter sa majorité, Gaston Tongsang avait fait embaucher la 20aine de membres du cabinet de Hamotini Lagarde dans les cabinets ministériels déjà remplis de Fernand Romataroa et Clarence Vernodon. Après avoir entendu tous les membres des 2 cabinets, le juge d'instruction a demandé le renvoi en correctionnel des 3 trois élus en raison du gaspillage d'argent public causé par la manœuvre. Gaston Tongsang a toujours réfuté le moindre détournement de fonds en évoquant un simple sureffectif dans ses ministères. Il devra s'en expliquer dans 2 semaines devant les juges. Et en tout cas, pardon, Gaston Tongsang encourt une peine d'inéligibilité dans cette affaire. Et même si les voies de recours en appel et en cassation pourraient retarder les éventuelles sanctions à l'encontre de Gaston Tongsang, l'avenir politique du représentant Atia Polinita serait suspendu à cette seule décision. Or, la courte majorité du clan Fritsch à l'Assemblée peut aujourd'hui difficilement se payer le luxe de perdre un élu et surtout une voix.
Autre actualité judiciaire, c'est l'enquête autour de la victime retrouvée devant la clinique Pofei.
Une enquête qui est loin de s'éclaircir puisque les examens du médecin légiste sur le corps de l'homme d'une trentaine d'années placé dans un coma artificiel n'ont pas confirmé la thèse de l'agression. Je vous le rappelle, mercredi dernier vers 21h, un passant avait prévenu la DSP après avoir découvert le corps inanimé et blessé à la tête d'un homme d'une trentaine d'années en pleine rue devant la clinique Pofei à Papeete. L'homme était hospitalisé à la clinique pour des problèmes d'estomac et il était vraisemblablement descendu prendre l'air dans la soirée. Depuis qu'il a été découvert, l'homme est placé dans un coma artificiel et son pronostic vital est engagé. Et depuis 5 jours, les enquêteurs de la DSP n'arrivent pas à expliquer ce qui a pu arriver. La thèse la plus probable d'une agression est aujourd'hui remise en question par les conclusions du médecin légiste qui a examiné le corps de la victime. L'expert a confirmé la présence de lésions cérébrales, mais il n'a pas trouvé de traces d'agression. Le parquet a demandé des analyses complémentaires aujourd'hui pour tenter de faire toute la lumière sur cette affaire.
En bref, la fillette de 12 ans portée disparue ce week-end a été retrouvée.
Une bonne nouvelle puisque la gendarmerie avait lancé un nouvel avis de recherche ce week-end suite à la disparition inquiétante d'une jeune fille de 12 ans à Taravao. Eh bien, sachez que la petite Tahuea Mehi est rentrée chez elle ce matin. Les gendarmes ont donc mis fin aux recherches.
Il est midi 7, vous écoutez Radio 1. Merci de nous être fidèles. On marque une courte pause dans ce journal et on développe la suite de l'actualité dans un instant.
Premier sur l'info.
On reprend avec la grève qui touche Air France depuis ce matin, mais pas la Polynésie.
Et après le refus des pilotes de travailler plus pour le même salaire, la direction d'Air France pourrait décider de supprimer une quinzaine de lignes d'ici 2017 avec potentiellement 2900 suppressions de postes à la clé. Ce lundi, 3 syndicats ont appelé un mouvement de grève nationale chez Air France. Pourtant interrogé vendredi midi, la direction de l'antenne polynésienne d'Air France assurait qu'aucun vol ne serait perturbé sur la ligne Papeete-Paris à cause de ce mouvement.
En bref, ce terrible drame en Nouvelle-Calédonie avec un crash d'hélicoptère.
Ça s'est passé hier après-midi vers 14h30. Un hélicoptère bombardier d'eau qui luttait contre les incendies s'est écrasé dans la mangrove, non loin du village de Vaux, au nord de la Nouvelle-Calédonie. C'est une information de nos confrères des Nouvelles-Calédoniennes. La pilote de 47 ans et le mécanicien de 31 ans qui l'accompagnait sont décédés dans l'accident. Les circonstances exactes de cet accident n'ont pas encore été établies.
Et on termine ce journal avec nos invités de l'école de commerce de Tahiti pour parler du projet Make Sense.
Ce projet est porté par le jeune Polynésien Christian Vanizette a été sélectionné pour le Google Impact Challenge et il reçoit aujourd'hui le soutien des étudiants de l'école de commerce de Tahiti. Alors je reçois ce midi Théanivei Poutoua, étudiant en deuxième année à l'école de commerce. Bonjour.
C'est ça. Bonjour.
Alors Théanivei, est-ce que tu peux déjà nous expliquer peut-être ce qu'est ce projet Make Sense?
Alors cette année, l'école de commerce de Tahiti se mobilise pour soutenir Christian Vanizette, dont le fondateur de Make Sense. C'est une organisation à but non lucratif qui regroupe plus de 20 000 bénévoles à travers le monde et qui soutient l'entrepreneuriat social.
Donc d'accord. Le projet Make Sense, il concourt aujourd'hui au Google Impact Challenge. On peut expliquer ça. Un petit peu ce que c'est que ce concours?
Alors, c'est un concours qui a été créé par la société Google et qui promouvoit et soutient de grands projets innovants à travers le monde qui auront un impact positif sur la planète.
Donc, il y a un concours qui a été lancé. À la clé, ce sont des subventions pour faire vivre justement ce projet Make Sense. Et vous, à l'école de commerce, vous avez décidé donc de venir apporter un petit coup de pouce à Christian Vanizette demain soir, c'est bien ça?
C'est ça.
Alors, comment ça va se passer exactement?
Alors, pour demain soir, on organise une grande soirée au Banana Grill avec le groupe local Pépina. Et pendant cette soirée, on veut réunir et mobiliser à peu près toute la Polynésie française pour soutenir Christian Vanizette dans ses projets. Et pendant cette soirée, les invités auront l'occasion de voter.
Alors, on va voter parce qu'on peut l'expliquer. En fait, pour remporter ce Google Impact Challenge, c'est au nombre de voix qu'on va comptabiliser le meilleur projet. Et donc là, vous allez proposer en fait aux personnes qui vont venir au Banana Grill demain soir de venir voter pour le projet de Christian Vanizette.
C'est ça, oui.
Bon, c'est parfait. Alors du coup, le rendez-vous est pris pour demain soir avec le groupe Pepena, on le disait. Ça se passe à quelle heure exactement?
Donc c'est de 17h à 20h.
Et le projet s'appelle 24 heures pour notre héros. Merci beaucoup Tani Veil d'être venu en direct sur ce plateau.
Merci à vous.
Il est 12h11.